On est vendredi, c'est le cinquième jour. Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, et merci si vous êtes là depuis le
11h.
Philippe Vandel.
Depuis le début de l'émission, pardonnez-moi, j'ai été troublé par cette annonce de Romain Desarbes. Notre invité, c'est le comédien Charles Berling, bientôt sur la scène du Théâtre du Rond-Point pour cette pièce Deux Amis avec Stanislas Nordet. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour tout le monde.
Sébastien Bourdonnaf, bonjour.
Bonjour Philippe.
Et je salue Jean-Luc Lemoine. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Philippe.
Jean-Luc, tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage et aujourd'hui, vous êtes intéressé à l'émission La Grande Librairie sur France 5.
Oui Philippe, j'étais obligé, hein. Il faisait une spéciale Marcel Proust et c'était en public évidemment.
Puisqu'on est en public, qui dans cette assemblée a lu le grand livre de Marcel Proust à la recherche du temps perdu dans son intégralité? C'est pas ce que vous en pensez qu'on a de la Madeleine sur la planche.
La Grande Librairie, Marcel Proust, pour une rubrique humoristique, je me suis dit que c'était porteur. Non, je déconne, j'ai regardé le cross sur W9.
Ah, voilà.
Cette nouvelle émission qui regroupe les Marseillais, le reste du monde et les motivés. Alors attention, hein, passer de France 5 à W9, t'as intérêt à bien te mouiller la nuque avant. Sinon tu risques une hydrocution. D'un côté, on te demande qui a lu Marcel Proust, de l'autre, on te demande ce que tu veux faire ce soir.
Je vous propose une grosse soirée en boîte de nuit. Pour la boîte de nuit, allez, allez.
Ouais, tu sens que le temps, eux, ils l'ont peut-être perdu, mais c'était pas dans une bibliothèque. Non, je plaisante pas. Là, une candidate découvrait la chambre où elle allait dormir et elle va avoir une belle surprise.
Ah, c'est ma chambre, c'est moi ?
C'est comme chez toi.
Ouais !
Alors, d'après vous, qu'a-t-elle découvert dans sa chambre qui la met autant en joie ?
Hein ? Vue mère.
Alors, attendez, elle est très heureuse parce qu'elle a découvert qu'elle avait, au-dessus de son lit, il y avait une collection reliée de la Pléiade. B, que sur un mur, il y avait un poster en feutrine fluorescente de Philippe Vandel torse nu avec un husky. C, qu'il y avait dans la chambre le seul truc indispensable pour une fille de télé-réalité. Alors d'après vous ?
Bah, le troisième.
Le Wi-Fi.
Eh ben non. Et écoutez, c'était le C.
Ouais !
T'inquiète.
Il y a un dressing, une salle de bain ! Ouais !
Un dressing et une salle de bain. J'ai jamais vu quelqu'un aussi heureux de voir un bidet. Donc le cross, c'est une battle entre trois groupes. Il y a des épreuves sportives et il y a aussi beaucoup de tentatives de déstabilisation entre les équipes. Mais Nicolo, de l'équipe Reste du Monde, ne compte pas tomber dans le panneau.
Oui, ils ont tout chauffé.
Oui, mais t'inquiète, de toute façon, je vais rentrer dans leur jeu, mais je crois pas un seul instant aux mots qu'ils vont me dire. Pitié, hein. Je suis pas sorti du vagin de ma mère il y a 2 heures.
Je crois que c'est une expression extraite du côté de chez Swan. Donc Nicolo était en grosse embrouille avec Julien des Marseillais parce qu'il avait osé critiquer sur les réseaux sociaux un plat de pâtes de la femme de Julien. Ouais, là on est sur du gros dos.
La recette, elle était vraiment éclatée au sol. Du coup, j'avais tout le droit de dire qu'elle sait pas cuisiner. Si Julien, il va s'en prendre à moi à cause d'une recette éclatée de sa femme, je vais faire avec, je vais survivre. Franchement, je m'en carre l'oignon.
Et hop, une petite recette pour un ton oignon. Il va être content, Laurent Mariotte.
J'adore. C'est pour toi.
En fait, le cross, on est presque sur une émission culinaire. Dans l'émission, il y a aussi pas mal d'embrouilles amoureuses. Et là, à table, devant tout le monde, Clarisse apprenait qu'elle avait été cocufiée par Alan, qui va trouver la meilleure justification au monde pour ses tromperies. Alors, ça aussi, écoutez bien, c'est une leçon.
Je comprends sa colère, parce que c'est vrai que moi, j'avais pas confiance en elle, j'étais un peu jaloux. C'est pas ce qu'elle faisait quand elle sortait, quand elle était en boîte de nuit. Si elle faisait des choses de son côté, franchement, je voulais pas tomber des nues, ben voilà, je fautais de mon côté.
Voilà, le mec trompait sa copine parce qu'il avait peur que sa copine le trompe. C'est pas la tromperie, c'est la prévoyance. Moi, je dis que ça se tente. On va quand même écouter la réaction de Clarisse.
Je protégeais mon cœur.
Mais cœur de quoi ? T'as pas de cœur ? Alors, Dieu, je protège mon cœur, t'as pas de cœur pour faire des trucs comme ça, la vie de ma mère ?
Je crois que ça n'a pas marché. Ce qui est bien avec Clarisse, c'est que quand elle s'énerve, à un moment, vous avez remarqué, on ne comprend plus du tout ce qu'elle dit. Mais ce n'est pas la seule difficile à suivre dans l'émission. Je vous propose Christopher.
Marrakech, c'est notre première soirée. Et là, on va montrer c'est qui la roue de la piste. La roue de la fête, c'est nous. On est à la prochaine musique.
Moi non plus, j'ai pas compris. Et je voudrais finir par le compliment le plus maladroit que j'ai entendu depuis longtemps. Maëva Guénam intégrait l'aventure et Christopher, justement, était très content de cette arrivée. Il nous explique pourquoi.
Elle a des défauts et tout, mais elle a un grand cœur. Je pense qu'on va pas s'ennuyer du tout avec Maëva, parce qu'elle a une grande bouche et tout, et elle est jamais fatiguée.
Je crois qu'on n'aura pas mieux cette semaine. À lundi.
Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. À lundi, je rappelle qu'on vous retrouve chaque jour dans Historiquement Vôtre, les 5 jours de la semaine, de 16h à 18h avec Stéphane Bern. Donc tout à l'heure, on peut vous entendre sur Europe 1. Salut Jean-Luc, bon week-end. Laurent Mariotte, je me tourne vers vous. Un plat de pâtes complètement raté ? Pas du tout. C'est quoi votre indispensable du jour ?
On va faire rimer le nom de votre invité, Charles Berling, avec Fooding. Le guide vient de sortir hier.
Sébastien
je sais que vous aimez les rimes.
Non, j'adore. Sébastien Bourdonnaf.
Un livre d'entretien passionnant de plus de 400 pages sur Franquin, le papa de Gaston Lagaffe, avec des dessins inédits, des photos incroyables, des anecdotes de ouf. C'est une vraie bible. La preuve, ouais. Ça s'appelle « Et Franquin créa Lagaffe ».
Franking, alors ça.
Franking pour le jeu de mots.
Franking avant Berling. On va parler de sa pièce « Deux amis » qu'il interprète avec Stanislas Nordet sur, au Théâtre du Rond-Point. Mais d'abord, musique, c'est AD et son titre « Sunset » sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Charles Berling.
Bonjour.
Acteur, metteur en scène, scénariste, réalisateur, grand amoureux du théâtre, au cinéma. On vous a vu dans Ridicule, Nelly et Monsieur Arnaud, Sautet ou Le Prénom. Vous avez joué sous la direction de Fassbinder, Patrice Chéreau, Michel Deville. C'est assez impressionnant. Et aussi au théâtre, impressionnante carrière, une cinquantaine de pièces. Votre actualité, c'est Deux amis, une pièce de Pascal Rambert avec Stanislas Nordet. C'est au Théâtre du Rond-Point. Et il y a une histoire dans l'histoire. Une histoire de théâtre, une double mise en abîme. Je ne sais pas trop par quoi commencer. Pascal Rambert avait beaucoup écrit pour Stanislas Nordet. Racontez-nous comment vous arrivez dans ce projet, dans ce duo qui est devenu un trio.
Pascal, il est de Nice, il est niçois, et donc je l'ai connu en 93 quand il m'a proposé de jouer de mes propres mains, qu'on a fait au Théâtre des Amandiers à Nanterre quand Chéreau était encore à la direction. Et donc Pascal, c'est un auteur français, internationalement très reconnu, c'est-à-dire il joue partout dans le monde, il va à Tokyo, au Mexique, et il a une écriture qu'il a peaufinée comme ça depuis. On a à peu près le même âge, et donc j'ai suivi cet auteur français qui est un peu comme Bernard-Marie Coltès, des grands auteurs de théâtre contemporain.
Et avec qui vous avez fait Dans la solitude des champs de coton, si je me souviens
bien.
Oui,
Bernard-Marie Coltès, oui, et aussi Roberto Zucco. Donc il faut savoir que les gens ne savent pas, mais le théâtre français, enfin, les auteurs français, il y a Yasmina Reza aussi, il y en a d'autres, sont très joués dans le monde entier. Et donc, lui, il en fait partie. Donc, à un moment donné, il y a trois ans et demi, il me dit, je vais t'écrire une pièce pour toi et Stan. Parce que c'est un auteur...
Stanislas Nordet.
Stanislas Nordet.
Ah non, mais moi, j'ai lu une autre histoire. Il paraît qu'il lui propose à Stanislas Nordet d'écrire une pièce. Et il lui dit, d'accord, avec quelqu'un d'autre. D'accord, Nordet dit, il lui demande, avec qui veux-tu jouer ? Et il dit, avec Berling.
Voilà.
Parce que ça s'est passé comme ça.
Oui, parce que l'histoire de ce spectacle, c'est aussi l'histoire d'une longue amitié. Ça ne veut pas dire qu'on s'est vu tout le temps, mais Stanislas Nordet, Pascal Rambert et moi, on a un peu la même histoire du théâtre français. Et donc, il a écrit... Au fond, il a écrit pour nous et il a écrit sur cette histoire et sur cet amour du théâtre, sur la passion du théâtre.
Alors je vais raconter un petit peu pour qu'on comprenne ce qui se passe. Deux amis, ce sont deux collègues, ils travaillent dans le théâtre, ça vous fait rire, parce que ce sont également deux petits amis, c'est un couple. Ils vivent, ils travaillent ensemble dans le théâtre, ils veulent monter quatre pièces de Molière comme l'avait fait Antoine Vitesse, Le Misanthrope, L'École des Fans, Tartuffe, Don Juan... Comme dans La Nuit américaine de Truffaut, comme dans 8 et demi de Fellini, qui sont des films qui racontent le film en train de se faire. Exact. Là, ce sont presque des comédiens sur une scène de théâtre qui montrent du théâtre en train de se faire.
Oui, parce que Pascal, il part des gens pour écrire. Il adore les acteurs. Il écrit pour quelqu'un. Donc là, il a écrit pour nous. Et en même temps, il se sert de ce qu'ils sont. Donc, on est directeur. Moi, je suis directeur d'une scène nationale. Stanislas Nordet, à Toulon.
Et lui, il est à Strasbourg.
Au TNS. Et donc,
il dirige le TNS. C'est ça qui est important de savoir. Vous êtes deux patrons de théâtre.
Voilà. On est à la fois directeur de théâtre.
Et comédien.
J'aime pas trop le mot patron, mais à la fois on est directeur de théâtre, c'est-à-dire on essaye de construire la culture aujourd'hui dans ce pays. Bref. Et puis aussi, on est acteur et on est metteur en scène. Donc ça, c'est la vérité. Et ensuite, il fictionne parce qu'il fait comme dans l'histoire, on est ensemble en plus. Ouais. C'est-à-dire, en plus, on est amoureux. Il y a de l'amour du théâtre et il y a de l'amour tout court.
Et il y a de la chair aussi.
Donc il écrit, il part de ce qu'on est, il nous fait parler parce qu'il nous connaît et en même temps... Il fictionne la chose, il prend ses aises, il va dans la direction. Ah oui, il prend beaucoup ses aises. Mais
est-ce que c'est une écriture fantastique? Parce que je n'ai pas vu la pièce, mais je l'ai lue. Est-ce que c'est une pièce tout public?
Philippe, quand on a créé on l'a créé chez moi, et c'est pour moi c'est le plus dur, c'est de jouer dans mon propre théâtre.
À Château-Vallon.
Oui, à Château-Vallon, l'été, au festival de Château-Vallon, qui est un festival absolument mythique, et donc on a créé là. Et là, je vous assure que le public, il est au fond, à quoi il assiste? Il assiste à deux artisans qui se prennent le chou sur leur art et qui à la fois sont très intimes. Donc, quand on est très intime, on peut se dire beaucoup de choses. Et donc, les gens, à la fois, ils étaient explosé de rire et en même temps tout d'un coup saisi par d'autres moments qui sont des moments, comment dirais-je, beaucoup plus fondamentalement dramatiques.
Non mais je vais le dire, il y a aussi des scènes de nus. Ou alors je ne sais pas si vous les jouez ou si elles sont simplement écrites comme ça. Et il y a des scènes lyriques explicites.
C'est un théâtre du « on est dénudé ». C'est-à-dire, il faut accepter, quand on fait un théâtre de Pascal Rambert, c'est d'être comme dans un espace de sacrifice. L'acteur, on ne va pas chipoter, on ne va pas commencer à dire « oui, bon, peut-être que… » Non, on y va à fond. Mais c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est beau au théâtre et en général dans l'art dramatique. C'est de se sacrifier, c'est d'y aller totalement. Ce n'est pas un art du mou. C'est pas un art du petit consensus, non, c'est un art où si on s'expose, ben on s'expose à fond. Et avec Pascal Rambert, ben, c'est vrai qu'il y a, cette corrélation entre l'intime, ce qu'on est soi-même, et puis la fiction, et puis ce qu'on s'invente comme vie.
Charles Berling avec nous, ça s'appelle Deux Amis, ce sera au Théâtre du Rond-Point, ça avait déjà été créé à Château-Vallon. On continue d'en parler. On va parler également BD avec un génie de la bande dessinée qui nous a quittés, c'est Franquin. C'est le papa de Gaston Lagaffe, mais pas seulement. A tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Charles Berling, Deux Amis, pièce de Pascal Rambert, pièce écrite pour Charles Berling et pour Stanislas Nordet. C'est au Théâtre du Rond-Point. Vous êtes fan de bande dessinée, vous avez le temps de lire?
Non.
C'est deux questions en une, je veux bien conscience
pas
de
beaucoup.
Ça.
Mais je trouve la bande dessinée, c'est le 8e art, n'est-ce pas?
Oui.
C'est mérité. Je trouve c'est... Non, mais moi j'adore le dessin et je trouve qu'il y a une grande invention, qu'en plus les Français, ils sont super bons dans cet art. Mais c'est très irrégulier.
C'était un très bon lancement parce que je crois qu'on parlait d'un Belge, non?
Oui, exactement.
Mais c'est presque un Français.
Oui, mais les Belges,
mais ouais,
c'est des super Français.
Alors aujourd'hui, ce que nous proposait Sébastien Bordenaf, c'est pas vraiment une bande dessinée, c'est un livre d'entretien que Numa Sadoul, a eu avec Franquin. Franquin, c'est le créateur de Gaston Lagaffe et l'ouvrage s'appelle... Et Franquin créa Lagaffe.
Oui, ce livre de plus de 400 pages est sorti une première fois en 1986, rapidement rupture de stock. Aujourd'hui, il est enfin réédité. On y trouve des dessins inédits, des documents incroyables, des photos iconiques et surtout un dialogue entre Numa Sadoul et Franquin. Numa Sadoul, c'est un dingue de BD. Il a un certain âge, ce qui lui a permis dans le milieu de la bande dessinée d'avoir décroché des entretiens prestigieux et approfondis avec Hugo Pratt, Moebius, Gottlieb, Uderzo, Franquin et même Hergé. Franquin, c'est André Franquin, le papa du marsupilami. Il a dessiné Fantasio, Spirou et la star aux espadrilles, Gaston Lagaffe. Belge, Franquin nous a néanmoins quittés en 1997. On lui doit aussi deux albums cultes qui s'appellent Idées Noires, des BD conçus pendant sa dépression qui sont d'une drôlerie absolue. Et ce n'est pas le seul paradoxe de cet homme à l'incroyable personnalité.
Alors, on vient de comprendre que ce livre était en fait une très longue interview de Franquin, mais quel est l'intérêt d'entretiens qui datent de presque 40 ans et qui ont déjà été publiés.
Mais Philippe, mais parce que c'est une plongée poétique et instructive dans l'histoire de la BD. Franquin, il était pote avec Peyo, le dessinateur des Schtroumpfs, Maurice, le papa de Lucky Luke et Roba, le dessinateur de Boule et Bill. On apprend plein de choses sur l'histoire de ces héros de notre enfance, sur leur technique de dessin aussi. Comment pour Gaston Lagaffe, qui était dessiné au pinceau, Franquin a dû boire des litres d'encre de Chine à force de sucer le bout de son pinceau pour bien le nettoyer, sinon ça faisait une petite fourche au bout et le pinceau était foutu. Dans ce gros livre, il y a plein de documents reproduits, notamment un qui m'a beaucoup amusé, un tout petit croquis fait par Franquin à la marge de son journal de mots croisés. Il a dessiné un petit monstre poilu qui tient son phallus dans sa main. Oui, je me suis renseigné, à partir d'une certaine taille, on dit phallus. Et la femme de Franquin a écrit juste en dessous « Ah, bah c'est du beau !»
Franquin, oui, c'est vrai.
Franquin, c'est un type qui a dessiné pendant 50 ans, avec génie, sans vulgarité, sans grossièreté, parfois gauloiserie, son humeur, ses lubies, par exemple, les parcmètres. Il trouvait vexant qu'on paye pour rouler, mais aussi qu'on paye pour s'arrêter. Dans le livre, il pousse un coup de gueule, il dit « Vous vous rendez compte, il paraît même qu'il y a un aéroport à Amsterdam où on est obligé de payer pour aller aux toilettes. » Quand même, c'était une autre époque. En lisant la vie de Franquin et l'histoire de Lagaffe, je me suis posé une question. Est-ce que Franquin ressemblait à Gaston? Réponse de Numa Sadoul.
On ne peut pas dire que Franquin ressemblait à Gaston, mais on peut dire sûr que Gaston ressemblait à Franquin. Ce que Franquin aime, ce que Franquin déteste, c'est Gaston. Hein. Gaston, il déteste la guerre, l'armée, la religion. Je pense que Franquin est encore plus actuel aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 30 ans ou 20 ans. Si Franquin vivait aujourd'hui, je pense qu'il nous ferait une œuvre incroyable, tellement il y a de choses à dire sur l'état du monde. En tout cas, lui, je sais qu'il aurait été assez malheureux de vivre dans le monde dans lequel on est aujourd'hui.
date de quand cette interview?
De 86. Dans ce livre, Et Franquin créa la gaffe, on apprend que Franquin a toujours minutieusement contrôlé la gaffe. Il a même refusé que la CGT utilise un dessin de Gaston. Le seul dessin subversif signé Franquin de Gaston, c'était pour l'UNICEF. Il a dessiné un Gaston qui tenait le biberon à un petit Africain sous-alimenté, sauf que le biberon, c'était une bombe. La légende dit « Est-ce que vous êtes vraiment certain que nous les aidons ?» Franquin a expliqué ce dessin en disant que parfois, il est plaisant de déplaire. Dans le livre, il y a un petit mot aussi de la fille de Franquin, Isabelle, qui est née 8 jours avant la gaffe. Et ces derniers mois, il y a une bataille juridique entre elle et les éditions Dupuis. Est-ce qu'on verra bientôt un nouvel album de la gaffe dessiné par quelqu'un d'autre? Suspense, j'étais obligé de poser la question à Nouma Sadoul.
Si on peut sortir des suites d'une œuvre pour la faire vivre, pourquoi pas? Dans le cas de Gaston, Franquin a mis tellement de lui dedans, je pense que si on devait faire du Gaston, il faudrait que ce soit fait par quelqu'un qui soit capable aussi de mettre ses tripes et non pas seulement de faire du copier-coller. Franquin a dit « Je ne veux pas qu'on fasse du Gaston, mais si on en fait, je ne serai plus là pour le voir, donc ça m'est égal. » Et rien que sur cette phrase où il dit « Tout est son contraire entre le début et la fin », les deux moitiés ont été prises, l'une par Dupuis, l'autre par son héritière, pour débattre et décider de ce qui allait être fait. Je pense qu'on aura des surprises d'ici la fin de l'année, et que ça promet d'être intéressant.
Une surprise avant la fin de l'année, impatience en attendant, la plus belle des façons de savourer ce dessinateur de génie qu'était Franquin, c'est de lire cette Bible « Et Franquin créa la gaffe » édité chez Glénat. Et vous savez quoi, Charles, je vous l'offre. Je vois que ça me fait plaisir.
Gentil parce que je feuillette ce livre qui est très très beau.
Eh ben c'est pour vous.
Il est magnifique. Hein. On voit bien, derrière la bande dessinée, c'est d'abord du dessin. Et donc là, on voit toutes les étapes des dessins. C'est magnifique.
Les esquisses,
tout ce qui entoure, c'est très beau.
C'est somptueux. Et puis, si on n'a pas la chance de vous connaître et que vous nous l'offriez, c'est un très très beau cadeau de Noël.
Merci.
Merci beaucoup, Sébastien Bordonnave. Dans un instant, on revient à Charles Berling, on revient au théâtre. Culture Média continue.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Charles Berling qui va rejouer à nouveau cette pièce Deux Amis, écrite pour lui et Stanislas Nordet. Pièce contemporaine signée Pascal Rambert. Je dis qu'il va rejouer parce qu'elle a déjà été créée. Là, vous démarrez mercredi au Théâtre du Rond-Point à Paris. On l'a dit, c'est l'histoire de ces deux amis qui forment également un couple. C'est également un questionnement sur le monde du théâtre, parfois amoureux, parfois hargneux, ce questionnement.
Oui, c'est enfin, disons, c'est l'histoire du théâtre depuis les années 80. Et donc, pardon. Et le but de ces deux acteurs et directeurs et metteurs en scène, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut refaire ces quatre Molières, mais à la façon d'eux. Et alors, comme quand on en fait, ce qui est beau dans le théâtre, c'est qu'il y a des moments d'ébauche. C'est-à-dire, c'est un art où on se retrouve sur un plateau, on se dit, tiens, je fais quoi? Ah bah je vais là, je fais ci, je fais ça. Et même, ils sont en train de se dire, on peut peut-être rajouter, et moi, ça me fait plaisir d'ailleurs dans cette pièce, on rajoute un extrait de Ma nuit chez Maud d'Éric Rohmer avec Jean-Louis Trintignant et Antoine Vitez.
Alors moi, j'ai vu le texte, mais comment vous faites? Vous le rejouez? Vous le lisez? Ou est-ce qu'il est diffusé sur grand écran?
Non, pas du tout, on voit pas le film. Moi, je joue Jean-Louis Trintignant. D'ailleurs, peu avant que Jean-Louis ne meure, je lui disais, tiens, je vais te jouer et tout. Alors, ça le faisait marrer parce qu'il m'a raconté un peu le film et tout. Mais non, c'est-à-dire, on est là. C'est le moment où on vient voir des acteurs, des gens répéter. Mais rien n'est fait, il n'y a même pas de décor, il n'y a rien.
Je dis juste un mot, je vous interromps, parce que juste au sujet de Ma nuit chez Maud, on voit ce dialogue, il y a Jean-Louis Trintignant qui rencontre Vitesse par hasard, ils tombent dans les rues de Clermont-Ferrand l'un sur l'autre, il y a un dialogue un petit peu de small talk avant qu'on comprenne ce qui va se passer, ils vont aller tous les trois passer la nuit chez Maud, et votre personnage dit à Stanislas, dit, tu vois, un dialogue comme ça au théâtre aujourd'hui, tout le monde part en courant.
Je me demande même si cette époque a existé. Clermont-Ferrand, le bar Le Suffren éclairé dans la nuit, les néons, la Renaissance de Trintignant, sa voix, celle de Marie-Christine Barrault, toute jeune.
Enfin, vous avez le texte en tête. Mais non, les gens partiraient pas. Si un texte comme ça arrivait, les gens resteraient.
Non, on a changé de culture. Disons que les gens sont moins patients. Ils ont appris avec les écrans, avec la télé, avec même le cinéma, à aller beaucoup plus vite dans les ellipses. C'est-à-dire qu'on assiste à une transformation du spectateur.
Vous avez raison. Dans Derrick, il composait les numéros. Maintenant, on a tout de suite la personne. On n'attend plus films, jamais d'aucun film.
On avait la patience. Là, on ne l'a plus.
Il avait tout son temps, Éric Rohmer. Pascal Rambert vient vous voir jouer parfois. C'est une pièce contemporaine.
Oui, il adore.
Parce qu'il y a deux sortes d'auteurs. Il y a ceux qui viennent et ceux qui ne viennent surtout pas.
Les répétitions, pour moi, c'était d'abord une joie. C'est-à-dire, on a un peu comme des copains qui se retrouvent et puis qui sont contents de se retrouver. Et puis, ils parlent de quelque chose qui les fonde. C'est-à-dire, quand on fait du théâtre, on fait, c'est une passion, c'est sa vie. Donc là, on s'est retrouvés, mais on n'avait pas répété beaucoup. Chacun travaille dans son coin, puis après, boum, on s'est retrouvés, on a répété 15 jours quand on l'a créé à Château-Vallon, et on joue parce qu'il y a ce rapport-là d'une sorte d'urgence, d'un théâtre qui a besoin de la fragilité des interprètes.
Dans la pièce, il y a cette réflexion. Pour moi, la chose la plus misérable qu'un homme puisse faire, c'est vendre son talent à quelque chose de laid et jouir cynique. De l'argent qu'il en tire. Faire ça, c'est pas être acteur. Vous voyez venir ma question. Est-ce que vous avez déjà accepté des rôles pour de l'argent au théâtre?
Oui, ça m'est arrivé.
Cinéma.
Et je dois dire que c'est très douloureux, en fait. Et que ça ne rapporte rien. Parce que l'argent, c'est rien. C'est pas ça qui compte dans la vie. C'est pas l'argent.
C'était pour du théâtre aussi.
Et donc après, ben, on est malheureux
étiez,
avec un peu de fric.
C'était au théâtre?
Comment?
C'était au théâtre?
Au théâtre, non.
Parce que c'est comment quand on est tous les soirs sur scène, en train de se dire,
non,
je suis en train de faire de la bouse.
Non, parce que je dirais qu'au cinéma ou à la télé, on peut accepter des choses pour de l'argent. Mais au théâtre, non, parce que d'abord, le théâtre, ça rapporte peu. Et puis ensuite, parce que quand on s'engage au théâtre, c'est pour des mois et des mois et des mois, donc on fait un peu plus attention.
Quel rapport vous entretenez avec les médias et surtout avec la presse spécialisée? Votre personnage, il n'est pas temps d'être critique.
Ça, c'est aussi Pascal qui règle ses comptes avec la critique.
Ouais.
Mais la critique, c'est le regard qui,
donc, je vais dire ce
qui se transforme
dit,
en écriture.
Tu sais très bien qu'il faut rien leur, les critiques, tu sais très bien qu'il faut rien leur dire. Sinon, ils tombent dessus à la première occasion. Dis-leur ce qu'ils veulent entendre et basta. De toute façon, avant même de te voir,
ils ont un a priori
sur toi et sur ton travail.
Et sur ton travail. Mais c'est vrai. C'est-à-dire, il y a toujours eu. Bon, c'est pas nouveau. Patrice Lecomte, à un moment donné, il en avait parlé. Il s'en était pris plein la gueule, d'ailleurs. Mais il faut critiquer les critiques. De toute façon, il faut tout critiquer. Donc, à un moment, c'est vrai qu'ils sont eux-mêmes dans une énergie, dans un métier qui peut aussi être perverti. Et ça peut arriver. Donc, parfois, j'écoute Le Masque et la Plume, je trouve que c'est juste casser pour casser. Parce que, bon, bah, alors après, vous le savez, vous êtes journaliste, c'est-à-dire, et c'est vrai que dans le monde du journalisme, à des moments, quand on est très méchant, bah, ça paye plus.
Il y a deux catégories, puisque le journalisme, moi, ce que je fais ici, je donne jamais mon avis. Parce que j'ai pas à donner mon avis, c'est au spectateur. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est donner envie aux gens d'aller voir la pièce.
Tout à
après,
fait.
Après, ils aimeront pas. C'est pas comme une émission de critique, comme Le Masque et la Plume. Mais justement, à propos des journalistes, je peux vous dire que j'ai mesuré chaque question que j'ai écrite, parce que ce que vous dites au sujet des journalistes, enfin, ce que vous fait dire Rambert, il pose tous la même question, c'est exaspérant. Ou alors, pouvez-vous m'en dire un peu plus de la pièce? J'ai pas eu le temps de la lire, pardon, mais on est débordé au journal. Si on voulait résumer en une phrase, vous diriez quoi?
Eh ben, va ça faire ton travail, connasse. C'est ça,
ça
qui
c'est la suite.
Ça se finit comme ça. Ben oui, parce que à un moment donné, c'est vrai que c'est de pire en pire, je dirais. C'est-à-dire les gens, malheureusement pour eux,
ah
les
bon
critiques n'ont pas le temps de travailler.
Alors un mythe s'effondre, parce que moi je pensais que les critiques de, je pensais que les critiques de théâtre étaient des amoureux du théâtre, comme les critiques de musique classique étaient des amoureux du classique.
C'est vrai. D'ailleurs, il le dit à la fin, puisqu'il dit « Mais ils ont le même problème que nous, ils aiment comme nous le théâtre d'un amour fou, et quand il y a trahison de la promesse, leur blessure est immense et prend chez eux la forme de ce que l'on appelle un mauvais papier. Et c'est ok, c'est ok. » C'est-à-dire que Pascal est l'art du théâtre, et le théâtre, et cette pièce ne se met pas au-dessus de personne, et pas non plus au-dessus des critiques, mais elle critique les critiques.
Charles Berling, quelle éloquence au Théâtre du Rond-Point. Deux amis avec Stanislas Nordet, pièce de Pascal Rambert, et c'est un autre personnage qui arrive avec nous à parler gastronomie. Ça n'a strictement rien à voir. C'est Laurent Mariotte qui arrive dans le studio. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du comédien Charles Berling, on va un peu s'éloigner, quoique on mange aussi dans les théâtres. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Philippe Vandel.
On va parler gastronomie avec vous. Et j'ai prévenu Laurent, on s'est vu cette semaine, et j'ai dit il faut que tu fasses quelque chose qui intéresse Charles Berling, il faut que ça rime avec lui, quoi. Et il a décidé de faire rimer Berling et Fooding.
Ben voilà, c'était pas compliqué, mais je sais qu'il aime la bonne table et la gastronomie, Charles, en plus.
J'adore, et j'adore en parler.
Un guide créé en 2000, vous connaissez le Fooding, hein?
Le Fooding, oui, mais je ne savais pas que ça existait encore, c'est un numéro par an, c'est ça?
Ah, c'est un numéro par an, alors c'est vrai qu'il avait pour but de dénicher les jeunes talents de la gastronomie, de la guinguette à l'adresse bistronomique, on va dire. C'est un petit peu le pendant décalé du guide Michelin, si vous voulez. Ça vous arrive de le consulter un peu, Charles?
Oui.
Oui. Je sais que vous avez donné des bonnes adresses, vous vous souvenez
ou pas ?
Bah
oui, hein, heureusement, en France, on a encore de très bonnes adresses.
Les Pins Penchés à Toulon, c'est une de vos adresses que vous aviez référencées.
Stéphane. Oui, hein, les Pins Penchés, extraordinaire.
Et les Climats aussi, rue de Lille, une belle adresse bistronomique à Paris qui est tenue aujourd'hui par Emmanuel Coury. Ça, c'est une très belle table dans le 7e arrondissement de Paris aussi, voilà, qui est dans le fooding.
Le fooding avait révolutionné un peu la critique gastronomique. Oui. C'était moins, on pesait, on pouvait manger des très très belles choses, mais dans un restaurant qui pouvait peut-être parfois avoir des tables en formica.
Exactement.
Ça a un peu été récupéré partout. Entre-temps, petite info business, le fooding a été racheté par le Guide Michelin.
Exactement.
Question, est-ce que la ligne éditoriale a changé ?
Non, la ligne éditoriale n'a pas changé, mais cette édition, franchement, elle m'a un petit peu déçu. Alors, elle est déjà moins épaisse, c'est un gros pavé, le fooding. Alors, je sais que le prix du papier a beaucoup augmenté, c'est peut-être une des raisons, il est un peu plus léger. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que cette année, il se contente de mettre à jour les nouvelles adresses de l'année. Mais il n'y a plus la mise à jour qui comprend les anciennes adresses qu'on aime retrouver. Pour ça, il faut aller sur le site. En revanche, il y a quelque chose de très bien, il référence cette année les commerces de caractère. Partout en France, ça va du maraîcher à la poissonnerie, la boulangerie, les artisans du goût, comme je les appelle, on peut les retrouver effectivement dans ce guide du fooding. Ouais.
À un moment, leur credo, c'était le goût de l'époque.
Oui.
Est-ce que le guide tient cette promesse ? Est-ce qu'on retrouve là le
toujours,
goût de l'époque ?
Toujours, franchement, oui. Alors, c'est vrai. Oui, Charles ?
Non, je voulais, parce que j'entends le goût de l'époque. Je voudrais juste, je saute sur l'occasion pour dire, dans le fooding, dans tous les restaurants, tous mes amis restaurateurs, tous les magnifiques restaurateurs que nous avons. N'oubliez pas le végétarien, faites du végétarien. Aujourd'hui, le goût de l'époque, la transformation de la société, c'est manger moins de viande, manger moins de poisson, manger beaucoup plus de légumes. C'est très bon pour la santé et c'est surtout fondamental pour la planète.
Mais vous avez raison, mais le végétal, ça y est, est très présent dans nos assiettes. Avant, il était sur le bord de l'assiette, le légume, maintenant, il est au centre quand même, dans de nombreuses tables.
Hein. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'on peut faire encore plus et j'invite les auditeurs à aller sur L214, là, cette magnifique association qui raconte comment la viande, le poisson est malheureusement trop mal fait. Souvent, je dis, il faut distinguer un certain nombre de...
Vous parlez d'élevage intensif,
voilà,
effectivement. Il faut sortir de l'intensif.
Il faut en sortir. Ouais. Il faut absolument en sortir.
Juste un mot.
Mais il y a de beaux élevages respectueux aussi du bien-être animal. Hein.
Si je peux en passer, pour redonner la parole à Laurent, d'ailleurs, la couve du fooding, c'est un potage. Il n'y a pas de viande, pas de poulet, pas de bœuf.
Exactement.
Et c'est surtout prouvé.
Pardon, on a besoin d'infos.
Le végétarien, c'est bon.
Oui,
c'est très bon. Là, je pense à notre ami Jean-Pierre
Goff. Ouais. Bien, vous avez raison.
C'est bon, le végétarien.
Mangeons des courges. C'est la saison des courges.
On reproche souvent.
La saison
fooding
des courges.
Attends, je veux continuer parce qu'il y a plein d'infos à donner. On reproche souvent au fooding un ton décalé, un peu snob parisien. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que ça y est, ils ont...
C'est toujours un petit peu le cas, mais là, on ne peut pas leur reprocher d'être parisien parce que c'est vrai que depuis quelques années.
Moi, je suis à Toulon.
Oui, exactement. Le fooding, depuis 5 ans, on perd des virages en région et il référence comme ça pas mal d'adresses et le palmarès de cette année le confirme. Sur 15 adresses coup de cœur du guide, 11 sont hors périphérique. Il y a Marseille, Nantes, Biarritz, Préau-du-Perche dans l'Orne, Heugueville-sur-Sienne. Et effectivement, ça suit aussi les chefs, la jeune génération des chefs, Charles Berling, qui va s'installer en province, dans nos campagnes, dans nos régions et qui a un potager
mais
pour mettre du végétal dans l'assiette.
Mais dans mon propre théâtre, la scène nationale Château-Vallon-Liberté, qu'est-ce qu'on fait ? On a Tête d'ail qui nous fait à manger et où est-ce qu'il est on est à Toulon, et ben c'est à Solliès-Pont que sont les légumes qui sont
les
plantés là.
Les figues de Solliès.
D'accord, donc il y a des circuits courts, il y a des légumes super bons, c'est magnifique.
La génération des nouvelles chefs a pris ça en compte, le circuit court. Bien sûr que c'est possible. Et c'est ce qui se passe.
Mais le grand gagnant de ce palmarès ?
Alors, la table qui obtient le plus de louanges, Philippe, cette année, c'est le doyenné à Saint-Vrain dans l'Essonne, qui est tenu par deux Australiens. Alors là encore, regardez, ils possèdent leur propre potager. On s'y attable dans une verrière qui fut autrefois l'atelier de Niki de Saint-Phal. Donc c'est très fooding hein, comme combo, comme on peut dire, comme association. L'Essonne, l'Australie et Niki de Saint-Phal. Et au menu en ce moment, Saint-Jacques-de-Dieppe, champignons sauvages et sauce au vin rancio. Et il y a de la canette, une canette bien élevée de Criachera dans le Pays Basque.
C'est quoi du vin rancio ?
Le rancio, c'est un vin qui est oxydatif avec un petit goût de noix.
Oxydatif, attention.
Oui. On apprend des mots ici. Et à Toulon, puisque vous voyez, il y a une page Toulon.
Ah ! Et il y a une page aussi Saint-Martin-de-Ré, parce que je sais que Charles Berling est très attaché à cette localité, Saint-Martin-de-Ré sur l'île de Ré. Et il y a le Sergui qui est très très bien référencé, qui est le restaurant du chef Philippe Trédejeu, qui avait l'entre-de-jeu à Paris. En ce moment, par exemple, encore du végétal pour vous, Charles Berling, artichaut frit sur un lit d'houmous d'aubergine. Là, pour le coup, il y a du végétal qui est convoqué.
Et pas seulement pour moi. Hein.
Pour tout le monde.
Ah, merci.
Demain, à la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Eh bien, on fait des bocaux, on va faire des concerts avec Yves Candebord, qui est chroniqueur dans notre émission, mais qui lance un très beau livre, qui publie un très beau livre sur les conserves. On va mettre du végétal là aussi en conserve. Et Gaspard Proust sera des nôtres pour se mettre à table.
Merci beaucoup, Laure Mariotte. Vous connaissiez l'adresse qui est recommandée par le Fooding à Toulon ?
Non.
Il la connaissait
pas. Le petit Chicago, je connais, ça c'est le quartier.
Ouais. Et ben, je vous offre le guide, voilà, cadeau.
Merci, merci beaucoup.
Culture Média continue, c'est la dernière ligne droite avec Charles Berling. Merci beaucoup, Laurent Mariotte, à la semaine prochaine, salut.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Charles Berling, ça redémarre mercredi sur la scène du Théâtre du Rond-Point avec une pièce écrite pour eux deux, Berling et Stanislas Nordet, pièce écrite par Pascal Rombert. Et dans la pièce, Stan Diamant, parce que c'est vos vrais prénoms, hein, c'est Stan et Charles, Stan Diamant, on dira si Molière vivait aujourd'hui, j'arrête ma phrase ici, si Molière vivait aujourd'hui, il ferait quoi, il dirait quoi selon vous Charles Berling?
Il dirait le théâtre, bien sûr il y a de la technologie, aujourd'hui la technologie elle est extraordinaire au théâtre, mais vous pouvez aussi faire comme Antoine Vitesse d'ailleurs l'a fait avec les quatre Molières, c'est-à-dire avec une table, deux chaises, un bâton, vous pouvez faire de la magie. Ça, c'est ça qu'il dirait. Il dirait, pléthore de des technologies, c'est pas forcément nécessaire. Le théâtre survivra à tout parce qu'il est primaire, parce qu'il est sauvage, parce qu'il est, rien. Il est rien que quelque chose de pur, d'un rapport humain à d'autres êtres humains. Et ça, il le dirait. Et donc, à partir de là, il permet les nuances, les contradictions, la vraie dispute. Il permet d'être dans un univers, d'être dans un espace de discussion, de vraie discussion, c'est-à-dire de fond. Mais une discussion qui peut aller, qui peut être justement aboutir à des choses très radicales, à des choses très sauvages.
Il est bavard, Molière. Stanislas, bah, je disais s'il était aujourd'hui, donc j'ai mis la phrase au présent. On a un message pour vous, c'est un message de votre compère sur scène, justement, metteur en scène, et cette fois-ci comédien, c'est Stanislas Nordet, qui a un souvenir à raconter, à vous raconter, à nous raconter.
Cher Charles, te souviens-tu de notre escapade à Princeton, à côté de New York? C'est la dernière fois où nous avons joué deux amis, avant la reprise au Théâtre du Rond-Point. Représentation absolument incroyable, fou rire garanti, décor qui s'écroule, table qui se brise en deux sous nos yeux. Alors qu'on est en train de jouer, on essaye de la remettre, puis elle se recasse à nouveau. On cherche des solutions pendant toute la représentation. J'ai vu que la fiche du Théâtre du Rond-Point pour deux amis représentait une table brisée en deux. As-tu vu ça? Est-ce prémonitoire? Et est-ce que nous devons intégrer au spectacle ce qui pourrait être un gag récurrent? Je t'embrasse et à très vite sur scène, Stanislas.
Très très bonne question.
C'était dingue. C'était dingue. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire un sketch plus drôle que ce qui a été, qui nous a pris au dépourvu. La table, c'est pas qu'elle elle se défaisait sous nos yeux. Plus j'essayais de la faire tenir debout, plus c'est ces tables en préfabriqué là. Et tout se dévissait, tout. Et les gens étaient explosés de rire. Et nous, on était là, on se regardait avec Stan. On a réussi à continuer à jouer, mais ça ne s'invente pas. Ça, c'est le théâtre. C'est-à-dire que cet impromptu, cette réalité, en fait, fait qu'il y a une tension. C'est extraordinaire, incroyable. On est à Princeton, déjà, on se dit, on va aller jouer à côté de New York, d'accord, bon, très bien, ok. Mais c'est quand même bizarre, c'est abstrait d'aller, hop, on prend l'avion pour jouer deux jours.
En français, qui était le public.
Oui, déjà, le bilan carbone, c'est pas terrible, enfin, mais... Et puis là, on arrive, comme on n'avait pas la bonne table, puisqu'elle n'avait pas fait le voyage avec nous, on s'est retrouvé avec une table d'emprunt, et cette table d'emprunt, elle a été géniale. Mais géniale, un gag extraordinaire.
Est-ce qu'il y a des gens, comme souvent ça arrive, est-ce qu'il y a des gens qui ont pensé que c'était prévu dans le...
Mais c'est sûr, les gens pensent, mais là, on s'est vus, Stan et moi, comme deux grands clowns, en fait, malgré nous. Ça, c'est beau. Mais c'est ce que le théâtre de Pascal Rombert permet ça, parce que le théâtre de Pascal Rombert travaille beaucoup, enfin, est fondé sur la réalité du lieu, du théâtre lui-même, et puis la fiction.
Alors à ce propos, dans le final de la pièce, je ne vais pas tout raconter, mais à un moment donné, vous mettez tous les deux un équipement spécial, vous mettez des gants, des lunettes de protection, et vous cassez tout avec cette musique.
Il faut faut pas me la mettre parce que là je vais tout péter
c'est
dans
vrai.
Le studio.
Mais vous n'avez pas de
c'est
faire,
génial.
C'est bien.
Ça fait partie aussi du.
Vous pétez un ordinateur, tout. Des ordinateurs, des imprimantes, des claviers, des écrans de télé, d'autres objets.
Oui.
C'est des objets de théâtre qui après on bidouille pour qu'ils servent le lendemain.
Non, c'est-à-dire c'est des trucs qui vont être recyclés après, mais on les prend. C'est là, c'est comme si je pétais tout là, vos écrans, l'ordinateur, les micros, tout. C'est une joie de casser.
Ah mais tellement.
Ah
vous
mais
avez
c'est,
vu qu'en
c'est
des...
sûr. C'est ça que le théâtre permet aussi. Ça s'appelle des contradictions. Moi, je suis un bâtisseur, un constructeur. J'adore. Je suis positif, mais j'adore casser.
Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Corée et au Japon? Ils font des salles pour les cadres stressés, même pour ceux qui ne sont pas cadres. Et
c'est
on va
ça.
Dans une pièce, on a une barre de fer et on pète tout.
Oui, puis en plus là, on pète de l'électronique. Ouais. Et l'électronique, c'est vachement bien à péter parce que ça, les claviers volent, ça donne plein de trucs super marrants.
Toute petite info, un truc qui m'a vraiment étonné, je ne m'attendais pas à vous parler de ça ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu qu'hier, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rejeté une proposition du député Aymeric Caron d'interdire la corrida. Vous avez suivi ou pas?
Ouais.
Vous savez pourquoi je vous en parle?
Ouais.
Parce qu'il y a 3 ans, vous aviez co-signé une tribune dans le Figaro avec des personnalités, il y avait Arditi, Philippe Cobert, Denis Podalydès ou Jean Reno, contre une proposition de loi qui visait non pas à interdire la corrida, mais à interdire la corrida aux mineurs. Vous vous souvenez de ça?
Très bien.
Et pourquoi vous avez signé ça?
J'ai signé ça parce que pour moi...
Après ce que vous avez dit en plus avec Laurent Mariotte
sur
la viande...
Oui, mais parce que pour moi, je suis très 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 sensible sur la cause animale. La cause animale,
oui,
c'est-à-dire l'animal n'est pas un objet.
Je ne vais pas le reprocher.
Corrida, l'animal n'est pas un objet. Dans l'industrie agroalimentaire, dans l'élevage intensif, dans toutes ces merdes que nous faisons, nous les humains, c'est-à-dire contre les animaux, de les traiter comme des objets, de leur naissance à leur mort, je trouve plus noble la corrida. Au moins, ça se fait au jour. L'industrie... en Bretagne, vous avez 75 millions de porcs. Est-ce que vous avez déjà vu un porc quand vous allez en Bretagne? Quand vous traversez la Bretagne en voiture, vous ne voyez pas un seul cochon. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que ça ne se voit pas. Moi, je dis aux gens... Avant de lutter contre la corrida, je vous en supplie, allez voir L214 et luttez contre l'industrie agroalimentaire. Le débat sur la corrida, il peut être ouvert. Je n'ai pas de problème. Je suis pas forcément un aficionados. Ok, mais je respecte les gens qui font de la corrida. Je ne respecte pas l'industrie agroalimentaire qui détruit les animaux, qui les traite comme de la merde. Ça n'est pas possible.
Merci beaucoup Charles Berling. C'est pas facile d'enchaîner avec l'actu que je dois donner. Deux amis, la pièce de Pascal Rambert avec Stanislas Nordet, ça démarre mercredi au Théâtre du Rond-Point. Merci d'avoir été dans Culture Média en direct avec nous. Nous, on se retrouve lundi à 9h pour l'émission. On sera avec la navigatrice Maud Fontenoy qui met en lumière le parcours des femmes océanes. Exploratrice, océanographe, sera dans un livre et des plongeuses de l'extrême. Et puis, le magazine qui s'est imposé comme une référence dans la presse féminine People, c'est Gala, 3e site vu mondialement. On sera avec son rédacteur chef adjoint Alexandre Maras et puis Gérard Mordilla, cinéaste, romancier pour son nouveau livre, Ecce Homo. Ça parle du Christ. Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. D'abord, je vous salue et ensuite, je vous pose la question. Le programme du jour.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Alors aujourd'hui, on va s'initier à la gratitude. Est-ce que vous avez déjà essayé? La gratitude, c'est savoir être reconnaissant, apprécier ce qui n'est pas forcément matériel et surtout admettre que les autres ont un rôle crucial dans notre bien-être.
Ma gratitude, c'est de dire encore une fois merci à Charles Berling. Bon week-end à l'écoute d'Europe 1. Salut.
Merci Philippe Vandel. Europe 1.